Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Capodiamant et Curium. Au programme, Klaus Fuchs et Alan Nonmay, physicien et espion atomique. Et gaspillage alimentaire, oser les insectes. Bonne écoute.
Comment faire quand l'envie de scroller votre téléphone vous prend? Un texte de Pierre-Luc Racine paru le 2 février 2023 dans Urbania. Saviez-vous que l'humain moyen et l'humaine moyenne sort son téléphone 52 fois par jour? Et ça, ce n'est qu'un calcul fait parmi les gens qui ont choisi de suivre leur temps d'écran. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé collectivement pour qu'on se rende là? Plusieurs dépendances sont considérées comme normales dans notre société. Le sucre et la caféine en font partie. En ce qui concerne notre téléphone, nous avons laissé des entreprises jouer dans notre tête comme toutes les substances qui nous rendent accros. Un grand nombre d'applications fonctionnent comme des machines à sous. Nos cerveaux sont constamment récompensés par un message texte d'un proche ou d'une proche, par un nouvel ou nouvel abonné, ou par un nouveau match sur un site de rencontre. Notre corps est également satisfait par tous ces événements, même si on s'entend qu'un message d'un ou d'une proche est plus important qu'une inconnue ayant pris 3 jours à nous répondre. Le pire dans tout ça, c'est que toutes les applications sont conçues pour qu'on y reste plus longtemps que prévu. On n'a qu'à penser à TikTok qui nous envoie constamment des notifications difficiles à effacer. Ces microdoses de dopamine font en sorte que nous voulons constamment en recevoir, et ce, même si elles ne sont pas vraiment satisfaisantes. Êtes-vous comme moi? À chaque fois qu'un réseau social est en panne, ma tête devient semi-obsédée à rattraper ce que je suis en train de manquer et je rafraîchis mon fil jusqu'à ce que ça revienne, pour réaliser ensuite que rien ne se passe et que c'est pas si le fun que ça, les réseaux sociaux. Bref, c'est normal de sortir constamment son téléphone. Je ne suis pas ici pour shamer qui que ce soit, surtout quand cet appareil nous sert aussi d'outil de travail. Mais voici quelques trucs pour tenter de le garder le plus possible dans nos poches. Le tenir loin de vous. Notre cerveau nous fait croire qu'on a besoin de notre fixe de téléphone, mais c'est faux. Ça vous est déjà arrivé de voir votre téléphone sur une table trop loin et de vous dire « bon ben tant pis ». À ce moment précis, vous saviez que vous n'en aviez pas besoin. Nous sommes prises avec un mélange d'addiction et de compulsion. Une compulsion est déclenchée rapidement, mais avec du travail, on peut briser nos patterns. La méthode la plus simple pour ne plus penser à son téléphone est donc de le placer au loin. Par exemple, laissez-le dans l'entrée lorsque vous barrez votre porte. Vous allez réapprendre à vivre sans. Ne le chargez pas près de votre lit non plus. Comme le dit Esther Perel, une psychothérapeute spécialisée en relations humaines, à la fin d'un discours chez Google, « Pour combien d'entre vous, la dernière chose que vous touchez avant de vous endormir est votre téléphone? » Changez ça. D'ailleurs, une étude de 2016 de l'Université de Virginie a montré qu'une personne sur 10 a déjà consulté son téléphone durant une relation sexuelle. Je suis pas mal certain que ça a insulté les 9 autres personnes. S'imposer des obstacles. Dans la même veine, plusieurs options s'offrent à vous pour vous enlever le plaisir de le consulter. Par exemple, pensez à désactiver Touch ID, Face ID, et imposez-vous un mot de passe très long. Vous verrez qu'un petit changement du genre vous découragera de consulter votre appareil pour rien. Pour nuire à votre expérience technologique, vous pouvez aussi virer votre écran en noir et blanc. Ainsi, toutes les petites couleurs et autres choses ne fonctionneront plus pour vous. En plus, vous verrez que de lire des statuts d'Éric Duhem en noir et blanc colle un peu trop bien avec l'époque de ses mentalités. Vous écoutez « Comment faire quand l'envie de scroller votre téléphone vous prend ?» Un texte de Pierre-Luc Racine paru le 2 février 2023 dans Urbania. Désactiver ses notifications. Pour moi, ça a été un gros game changé. Maintenant, il ne me reste que des notifications de messages textes, de courriels et de Messenger. Bon, OK, quelquefois d'Uber Eats aussi. Même ma messagerie d'Instagram ne vient pas me déranger durant ma journée. Il ne s'est jamais rien dit d'important en privé sur cette plateforme. Jamais. Ce n'est jamais arrivé qu'un ou qu'une présidente envoie des codes nucléaires en DM. Désactiver tout ça, ce n'est pas urgent. Et pendant que j'y pense, placez également votre téléphone en sourdine. Vous gossez tout le monde avec vos ding de notification. Faire de l'introspection. Pourquoi donc que je fais ça? Ce n'est pas facile de creuser ses intentions quand elles sont devenues inconscientes avec le temps, mais à chaque fois que vos mains ont envie de s'emparer de votre téléphone, demandez-vous « qu'est-ce que je suis en train de faire ?» En questionnant vos motivations, vous réaliserez souvent la vraie raison de le sortir. Par exemple, dans mon cas, je sais que je sors très rapidement mon téléphone dans une situation d'ennui profond. Si je suis attablé avec des gens ayant une conversation m'excluant ou dont le sujet me désintéresse profondément, mes mains fourmillent. Pour moi, une discussion sur les meilleurs matériaux de cuisine ne rivalisera jamais avec des pages farfelues de Wikipédia. Acheter une montre. J'ai réalisé qu'une des raisons de sortir mon téléphone était regarder l'heure. J'ai aussi remarqué que je n'arrêtais jamais de regarder l'heure et que chaque fois, je faisais le tour de toutes mes applications favorites. Même que ça m'est arrivé souvent de devoir ressortir mon téléphone parce que j'avais oublié de regarder l'heure. L'objectif initial. Depuis que j'ai une Apple Watch, mon temps d'écran est réduit. Non seulement regarder l'heure est plus rapide, mais je peux aussi consulter mes nouveaux messages et remarquer que dans 95% des fois, le feu n'est pas pris et que ça peut attendre. Même pas besoin d'une montre nécessairement intelligente. Une montre très niaiseuse du Dollarama fera en masse la job. Utiliser une app. Si rien ne marche, on est rendu à l'étape de combattre le feu par le feu. Ma première suggestion serait l'application Freedom, qui vous permet de bloquer des applications ou des sites web durant certaines plages horaires. L'application Forest rend le tout ludique. Lorsqu'elle est ouverte, vous verrez un arbre grandir et ensuite une forêt. Mais dès que vous la quittez, tout se détruit. Voilà. Ce sont des trucs que j'ai utilisés moi-même pour me sortir de ma compulsion de sortir sans arrêt mon portable de ma poche. Maintenant, si vous me voyez en public sur mon téléphone, vous saurez que c'est parce que je m'emmerde profondément. À l'aide, venez me divertir. C'était « Comment faire quand l'envie de scroller votre téléphone vous prend ?» Un texte de Pierre-Luc Racine paru le 2 février 2023 dans Urbania. Pouvoir féminin et dynamique du pouvoir en France et en Nouvelle-France. Un texte de Dominique Deslandre paru dans l'édition 2021, numéro 145 de la revue Cap au Diamant. Quand tu devrois me tuer, je porterai la culotte, comme toutes les femmes de Paris le font, s'exclame l'épouse en tirant vers elle la culotte que tente vainement de retenir son mari. Regardons de plus près cette gravure du XVIIIe siècle intitulée « Ambition de la femme pour parvenir à la maîtrise par la culotte ». Dans le fond de la pièce, devant l'âtre, symbolisant la féminité en devenir, la petite fille qui assiste à la scène fait tomber la vaisselle et s'arrache les cheveux, ce qui indique qu'elle saute un instant les attributs considérés comme traditionnellement féminins. Devant elle, ses parents se menacent l'un l'autre, l'homme avec un gourdin, la femme avec une quenouille. Ces emblèmes de la défense et de la production qui disent la ségrégation sexuelle des domaines masculins et féminins sont ici détournés de leur fonction première, alors que le chien, symbolisant la fidélité, se rue vers l'homme en aboyant, ajoutant au désordre. S'il n'est pas anodin que cette gravure sorte d'un atelier lyonnais dirigé par une femme, Anne Gentou, graveur en taille douce de 1751 à 1758, il n'en demeure pas moins que, depuis le Moyen Âge, la lutte pour la culotte est un topo des relations conjugales. Ce motif bien connu des mondes à l'envers devait faire rire et réfléchir sur la hiérarchie fondamentale qui régissait alors les rapports humains. Ici, la lutte pour la culotte caricature l'appropriation par les femmes de l'autorité naturelle des hommes, car elle déstabilise l'ordre du monde patriarcal. Or, s'il est une chose qu'indique la constante répétition, au cours des siècles, de telles railleries, c'est bien que le problème persiste. Aussi, souligne-t-elle, dans le creux de ce qu'elle remontre, l'étendue des pouvoirs reconnus très pragmatiquement aux femmes par la société française. Mettre en valeur les pouvoirs féminins. Il semble bien, en effet, que les vituperations misogynes témoignent de l'existence et de l'ampleur des pouvoirs féminins. Ainsi, du point de vue politique, pensons aux polémiques acerbes qui vont jusqu'à la lutte armée, qui mine les 60 ans de régence féminine qu'a connue la France entre 1559 et 1661. De Catherine de Médicis à Anne d'Autriche, les destinées du pays ont été régies par des femmes parce qu'elles étaient femmes et mères de rois, la régence étant le seul cas où la loi salique permettait l'exercice légitime du pouvoir politique féminin. De même, du point de vue social et religieux, les comportements des femmes semblent, dans les faits, s'éloigner de l'assujettissement à la puissance masculine, car à cette époque, elles investissent toutes les sphères de la société, s'employant à reconstruire la France après 40 ans de guerre civile et religieuse et, simultanément, à construire une France nouvelle en Amérique. On l'oublie souvent. Mais à partir de l'édit de Nantes en 1598, se développa en France un véritable féminisme catholique au nom de l'égalité des sexes devant le salut. Ce mouvement de fond prescrivait aux honnêtes femmes la même obligation qu'aux hommes, soit de se rendre utile au public. Ainsi, des deux côtés de l'Atlantique, les femmes de toutes conditions investirent massivement leur argent, leur temps et leur énergie dans ce qui constitue les fondements de la société civile, la bienfaisance, l'éducation, la santé. Des femmes de pouvoir, de la régente Anne d'Autriche, pas si potiche qu'on l'a décrite, à Marie-Madeleine de Vignerode, duchesse d'Aiguillon, bien moins sulfureuse que ne le veut la réputation qu'on lui a faite, jusqu'aux plus humbles dévotes, toute une génération de Françaises exactement contemporaines des Maries de l'Incarnation, Marie-Madeleine de Chauvigny, dite Madame de la Peltrie, de Jeanne Mance ou de Marguerite Bourgeois, se dévouèrent à relever le royaume et à l'étendre en Amérique. Pour ce faire, elles déployèrent leur réseau en transcendant les classes sociales, apostrophant à l'oral comme à l'écrit tous ceux qui pouvaient aider leur cause et sermonnant ceux qui s'éloignaient du droit chemin de la rédemption. Bref, elles firent entendre leur voix. Et elles étaient partout, puissantes et reconnues comme telles. L'importance de leur pouvoir se lit en effet, à contrario, dans les estampes qui circulèrent à partir des années 1660, qui mettaient en scène Lustucru, un forgeron tantôt raccommodeur des langues des femmes, qui ne savait pas se taire, tantôt carrément opérateur céphalique, qui offrait de reforger et repolir sans faire mal ni douleur les tests de femmes zachariates, bigardes, criardes, diablesses, enragées, fantasques, glorieuses, hargneuses, insupportables, lunatiques, méchantes, noiseuses, obstinées, pigriches, revêches, sottes, têtues, volontaires, et qui ont d'autres incommodités. le tout à prix raisonnable aux riches pour de l'argent et pauvres gratis. Témoignent aussi de ses pouvoirs féminins les railleries contre les précieuses qui, loin d'être ridicules, tentaient alors d'éviter que ne disparaisse des dictionnaires et du langage courant la féminisation des termes de métier et de fonction dont usaient les Français pour parler des autrices, médecine, sculpteresse, peintresse, demanderesse, apothicairesse, trésorière, etc. À ce sujet, remarquons qu'en Nouvelle-France, l'Ursuline Marie de l'Incarnation, pour qui, en grammaire, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, utilise le terme « capitainesse » pour rendre compte du pouvoir des femmes autochtones dans leur société. Aussi, y a-t-il bien lieu de parler de féminisme, puisque ce mouvement puissant d'activisme social, économique, politique et religieux signale une conscience de genre et une connaissance aiguë de l'étendue du champ des possibles qui s'ouvrait aux femmes dès XVIIe et XVIIIe siècles. Partageant un vocabulaire militant fondé sur l'égalité des hommes, ces femmes engagées adoptèrent également la même rhétorique de la faiblesse féminine investie d'une mission divine pour atteindre des objectifs bien concrets. Cette conscience de genre, on la trouve qui s'exprime dans les réseaux atlantiques que les Françaises tissèrent afin d'établir couvents d'éducation, hôpitaux, hospices et orphelinats. Dans les congrégations, ces lieux de sociabilité et d'entraide mutuelle qu'elles fondèrent, la Sainte Famille, la Bonne Mort. Dans la transmission des connaissances, grâce à une sorte d'éducation permanente avant la lettre des filles et des femmes, voire dans les systèmes de surveillance que les femmes maintenaient au lavoir, à l'église, au marché, pour traquer les contrevenantes qu'elles dénonçaient sans pitié. Les femmes faisaient tout cela en transcendant les relations de pouvoir intersexes et intrasexes, les classes sociales, les ethnies, les différents dogmatiques et la géographie. Vous écoutez « Pouvoir féminin et dynamique du pouvoir en France et en Nouvelle-France », un texte de Dominique Deslandres paru dans l'édition 2021 numéro 145 de la revue « Cap au diamant ». Les racines du féminisme québécois en Nouvelle-France. Le primat de l'inégalité, sur lequel repose à cette époque la société française tout entière, a longtemps servi d'argument pour récuser l'idée même de chercher en Nouvelle-France les racines du féminisme québécois. Impossible de trouver dans la société française, profondément hiérarchisée et patriarcale de la colonie, un mouvement social qui réclame l'égalité des droits. Les documents normatifs comme la « Coutume de Paris » qui émanent de la plume éminemment masculine d'hommes d'église, de juristes, de médecins, suintent la misogynie en insistant sur la seconde place réservée aux femmes dans la société française. Des deux côtés de l'Atlantique, le destin d'une femme est toujours lié à celui d'un homme. Fille de l'homme dont elle porte le patronyme ou épouse de l'homme choisi par ses parents afin de devenir mère d'un homme. L'héritier. La mort du mari l'investira d'un pouvoir socio-économique certain et d'une relative liberté dans ses mouvements et dans sa gestion des avoirs familiaux que les hommes de son clan considéreront cependant de très près, toujours prêts à lui intenter un procès pour mauvaise administration ou dilapidation du patrimoine. Dans un tel contexte, les femmes fortes, de la Nouvelle-France, dont se réclame parfois le féminisme québécois, sont présentées comme des exceptions et même comme des miracles. Mais cet argument de l'exceptionnalisme n'explique pas la place éminente des femmes dans les jeux de pouvoir à l'œuvre dans la colonie, des dynamiques qui demeurent trop souvent ignorées, puisque l'on s'arrête plus souvent aux prescriptions qu'à leur application effective sur le terrain. L'histoire des pouvoirs l'a pourtant démontré. La réalité des femmes d'autrefois est beaucoup plus nuancée que ne le prétend l'énoncé des principes apparemment figés et atemporels qui assujettissaient le féminin au masculin. les exigences des travaux et des jours et le pragmatisme des usages imposaient des accommodements qui faisaient l'affaire de tous et toutes. C'est ce que révèlent les archives judiciaires et notariales qui éclairent souvent avec moult détails non seulement les interactions entre les sexes, mais encore les pouvoirs exercés par les femmes. On y voit en effet des femmes de tout âge, de toute condition et de toute ethnie faire valoir leurs droits. Dans les procès, elles sont aussi, sinon plus souvent, demanderesses que victimes, témoins ou accusées. Ainsi, pour la seule juridiction royale de Montréal, entre 1693 et 1760, 1259 femmes différentes, mariées ou non, religieuses ou laïques, noires, libres ou esclaves, autochtones, libres ou panis, agissent de leur propre chef dans les 4338 dossiers qui impliquent des femmes sur les 6413 archivés par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. D'ailleurs, comme les hommes, les femmes résistent parfois activement, parfois passivement aux prescriptions civiles et religieuses au nom de ce que l'époque considérait comme le gros bon sens des coutumes établies. On pensera aux récidivistes célèbres comme Anne Lamarque, dite la Folleville, cabaretière accusée de vendre de l'alcool aux Amérindiens, Anne Désaunier et sa sœur, contrebandière du Sault-Saint-Louis, mais aussi à celle, moins connue, qui trichait à répétition, qu'on retrouve en nombre dans les procès civils. Ainsi, la plongée dans le quotidien d'autrefois que permet l'analyse des archives judiciaires dévoile autant les activités féminines, essentielles à la vie coloniale, que les pouvoirs réels et valorisés qui s'y rattachent. Rappelons que la vaste majorité des femmes travaillaient pour augmenter les revenus de leur famille. Les filles rapportant leur salaire de domestique, de petites mains ou de manouvrières à leurs parents. Les épouses apportant au ménage les gains non négligeables de la production textile ou de la vente des produits de la ferme. Par le biais des procurations conférées par leur mari ou leur père, les femmes jouèrent de fait un rôle remarquable dans la vie socio-économique coloniale. Et des deux côtés de l'Atlantique, nombre d'entre elles, filles, mariées ou veuves, se faisaient marchandes ou femmes d'affaires. Ainsi, les femmes jouissaient-elles d'une autonomie certaine ou à tout le moins d'une réelle reconnaissance de leur rapport économique. De plus, la presque totalité des hommes d'Ancien Régime ne pouvaient se penser sans femme. Le paysan ne pouvait subsister sans une femme aguerrie aux travaux de la ferme et à la vente dans les marchés. L'artisan ne pouvait s'établir sans épouse ou fille à qui confier finition et vente des objets, administration des finances, gestion du réseau et de la publicité. Le soldat ne pouvait avancer sans l'intendance assurée par les femmes qui suivaient les armées. Or, si l'homme ne pouvait suffire à sa tâche sans femme, la femme survivait la plupart du temps sans l'homme de la famille. Guerre, déplacements saisonniers, maladies, morts ou la force de la nécessité obligeait les femmes à se tirer d'affaires sans hommes en s'appuyant sur un solide réseau de solidarité féminine qui misait sur l'entraide, l'instruction et la transmission. Éduquer les enfants, tenir maison, soigner malades et indigents, porter l'eau, ramasser le bois, entretenir le feu, s'occuper des bestiaux, travailler au champ, au potager, au verger, vendre au marché ou au comptoir, recouvrer dettes et crédits, transmettre nouvelles et rumeurs, organiser les mariages, réunir la famille élargie, entretenir réseau et clientèle, ester en justice, toutes ces tâches dévolues aux femmes témoignent de l'exercice des pouvoirs féminins reconnus par la société. Pourtant, ces pouvoirs ne sont jamais mis en valeur dans nos livres d'histoire, car les travaux dont ils découlent sont considérés comme relevant de la nature féminine, immuable, ahistorique. Répétitifs, non rémunérés, ils sont jugés anachroniquement selon les critères de rentabilité financière et de force physique d'aujourd'hui. Des exemples? à côté des autres travaux domestiques que notre œil moderne juge peu contraignants, car nous oublions l'effort physique et le savoir-faire qu'ils exigeaient à l'époque, les ouvrages réservés aux femmes tels que le filage, le tissage, le lavage, le ravaudage, la taille, la couture, la broderie, sont négligés par l'histoire de l'économie, alors même qu'à l'époque de la Nouvelle-France, l'industrie des draps demeurait la principale source de richesse. Fondement du proto-capitalisme, elle correspond en effet à l'industrie du pétrole aujourd'hui. Ainsi, le tissage et la broderie, si importants autrefois, si dépréciés aujourd'hui, relevaient de l'industrie du luxe et, surtout, rapportaient gros. Il n'est donc pas étonnant que ce soit une femme, Agathe de Saint-Père, qui ait établi la première manufacture de toile, droguet, serge croisée et couverte de la colonie. De fait, c'est quand les femmes sont arrivées en nombre dans la colonie que cette dernière s'est développée. Aurait-elle seulement survécu s'il avait fallu que les colons se contentent des seuls gains de la traite des fourrures? Observer les faits et gestes des femmes d'autrefois plutôt que tenir compte seulement des prescriptions qui les assujettissaient au masculin permet de mettre au jour les pouvoirs qui étaient reconnus aux femmes par leurs contemporains. Ne constituèrent-ils pas un terreau fertile à l'empowerment subséquent des Québécoises? C'était « Pouvoir féminin et dynamique du pouvoir en France et en Nouvelle-France », un texte de Dominique Deslandres, paru dans l'édition 2021, numéro 145 de la revue Cap au Diamant.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vizevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Jocelyne Langevin à la lecture, Anne Hébert et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.